France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Un grand entretien ce matin avec Marion Lourd. Nous recevons deux invités qui ont réfléchi à la peur et à la capacité que nous pouvons avoir de la surmonter. L'un est l'un des principaux fondateurs d'une discipline qu'on a appelée la collapsologie. C'est une figure majeure de la lutte pour l'environnement et l'écologie en France. Pablo Servigne, auteur et de « Comment tout peut s'effondrer et une autre fin du monde est possible », de livres parus aux éditions du Seuil, et Nathan Obadia, thérapeute spécialisé dans le traitement du trauma et instructeur d'arts martiaux, fondateur de la méthode self-collective. On va savoir ce que ça veut dire dans un instant. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Et je signale à nos auditeurs qu'ils peuvent évidemment ouvrir le dialogue avec vous au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Puisque l'un voulait apprendre les arts martiaux, ça c'est vous Pablo Servigne. L'autre voulait écrire un livre sur la peur, c'est vous Nathan Obadia. Et ensemble vous publiez Le pouvoir du suricate. Le suricate, ça peut être vraiment surprenant d'imaginer qu'il a un pouvoir. Apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle, ça vient de paraître et on va parler de ce suricate. Mais d'abord un mot, puisque Pablo Servigne, on vous connaît pour avoir théorisé notamment la collapsologie. La collapsologie, c'est la description d'un cours de l'histoire qui montrait qu'on allait vers la catastrophe. C'était d'ailleurs le sens de ce livre « Une autre fin du monde est possible ». Vous avez essayé plusieurs fois d'imaginer une sagesse de l'effondrement. Ce livre, c'est une nouvelle étape. Parce que la perspective de la catastrophe, ça ne suffit pas pour nous faire changer de comportement ?
La perspective est juste la compréhension des choses. Moi, je viens du milieu scientifique et juste le fait, avec le mental, juste le fait de comprendre les choses, ça suffit pas à faire changer. Il faut que ça touche le cœur, il faut que ça touche le corps. Donc ce livre fait partie, c'est une petite pierre à l'édifice de l'alphabétisation émotionnelle. Et moi qui n'ai pas du tout été éduqué là-dedans, je découvre que, bien, par exemple, bien apprivoiser ses peurs, c'est une manière d'aller de l'avant et de passer à l'action de manière ajustée et en collectif.
Et on va en parler justement parce qu'il y a une dimension collective. Mais d'abord, un mot sur ce titre, Le pouvoir du suricate. Quand on a lu vos livres précédents, Une autre fin du monde est possible, par exemple, ou Comment tout peut s'effondrer, expliquez-nous tout simplement quel est le pouvoir de ce petit animal qu'on trouve dans le sud de l'Afrique, dans des régions plutôt désertiques. Vous avez apporté
une petite peluche
suricate.
Oui, exactement, qui est la petite sentinelle du désert. C'est Timon dans Le Roi Lion.
Oui.
En gros, cet animal, dans la savane, il scanne les dangers pour prévenir ses congénères. Il a des espèces d'aboiements. Il y a une trentaine d'aboiements différents. Ça fait un truc du genre... comme ça. Et selon le type, merci, je me suis beaucoup entraîné. Selon le type d'aboiement, la tribu va soit fuir, soit combattre, soit se camoufler pour essayer d'éviter les dangers. Et en fait, on utilise la métaphore du suricate pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents à nos peurs. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? En fait, on a un petit suricate qui est constamment en train de scanner ce qui est dangereux ou pas et qui va déclencher des réactions réflexes. C'est vraiment le cerveau primitif. Hein, donc, c'est pas du tout conscient. C'est instantané, limite. Et donc, bah, on utilise cette métaphore pour comprendre que si jamais on lutte contre la peur, si jamais on lutte contre le suricate, ça va pas marcher. Va falloir l'apprivoiser.
C'est ce que vous appelez la neuroception, le fait de scanner son environnement. Pablo Servigne, en fait, la peur, c'est vrai qu'on l'aperçoit beaucoup comme une émotion négative.
Désagréable.
En réalité, désagréable, c'est vrai que c'est pas forcément agréable, effectivement. Mais en réalité, ce que vous dites, c'est que la peur, c'est un message.
Oui,
il faut l'entendre, il faut l'écouter.
En fait, heureusement qu'elle est désagréable. Si c'était agréable, ben, on aurait tendance à aller vers les dangers, on ne serait pas là pour...
On n'en tiendrait pas compte.
Ben, on serait surtout pas vivant. Mais, donc ça reste désagréable. Mais c'est... Et le suricate, il nous envoie un message que nos besoins sont pas satisfaits et qu'il faut bouger, soit se bouger, soit changer le monde. Et c'est pas seulement un message qu'il faut comprendre, c'est aussi une énergie. L'adrénaline, le sang dans les muscles, c'est pour bouger la peur, c'est une énergie de vie. Et parfois, il y a des écueils, elle peut aussi nous sidérer. Et c'est là le paradoxe qu'on essaie de démêler avec ce livre.
Parce que qu'est-ce qui se passe quand le suricate est sidéré par la peur ?
Ben justement, sa logique à lui, c'est si jamais je bouge, je meurs. Ça, c'est la logique du suricate qui décide de passer dans ce qu'on appelle...
Il se fige,
c'est ouais. Ça, c'est la couleur bleue. On a introduit un code de trois couleurs. Le vert, on est en sécurité. Le rouge, on passe dans l'action. Donc, c'est peur ou colère, quoi. Si je veux survivre, ou fuite. Si jamais je veux survivre, je dois bouger. Et le bleu, c'est il faut surtout pas bouger pour survivre.
Parce que votre suricate, il a trois couleurs et une boussole. C'est un drôle d'animal, mais en l'occurrence, la boussole, elle indique la provenance de nos peurs. D'où viennent-elles? Et expliquez-nous, en fait, ce que vous entendez, parce qu'on a toujours peur de quelque chose. C'est pas une peur abstraite. Vivre en suricate, c'est avoir peur de quoi, Pablo Servigne?
Alors, le suricate scanne en permanence le monde. Genre, s'il y a une odeur bizarre, un bruit bizarre, tout de suite, il va déclencher
une alerte, un prédateur,
une voiture qui vous fonce dessus, etc. Et scanne les relations avec les autres. Donc, si un tel m'a pas appelé, qu'est-ce qui se passe, il fait la gueule, ou la personne en face a un visage agressif, tout de suite, le suricate se met en alerte. Ou alors l'intérieur, s'il y a une douleur dans le corps, ou s'il y a des pensées, ça c'est le pire, les pensées, oh j'ai une interview à France Inter demain, je vais commencer à flipper, ça c'était hier soir.
Ouais.
Là c'est les pensées qui génèrent des peurs, et le suricate lui comprend pas le langage, c'est vraiment un petit animal sauvage, et il comprend pas le temps non plus. Que ce soit un danger passé, présent ou futur, peu importe, lui il balance l'adrénaline, il s'en fout. Donc c'est ça aussi l'apprivoiser, ça passe par le corps. Et lui, il scanne un peu tout en permanence. Donc c'est vraiment, il est là pour nous aider.
Voilà, la première étape, Nathan Obadia, c'est vraiment de l'identifier, cette peur, avant ensuite de pouvoir réagir ou agir, et puis de pouvoir rejoindre éventuellement une situation d'apaisement. C'est ce que vous appelez le vert. Or, la société, elle nous apprend pas, en fait, à identifier cette peur, et notamment quand on est un homme.
Ah oui, ça c'est sûr que la peur peut être un aveu de faiblesse. Moi, dans mon histoire, j'ai essayé de me mettre aux arts martiaux pour essayer justement de ne plus avoir peur.
Est-ce que vous êtes fait agresser quand vous étiez petit?
Il y a eu quelques situations. Ouais, après, j'ai compris que ça venait aussi des générations précédentes. Et ça, c'est ce qu'on comprend avec l'épigénétique.
Des traumas hérités.
Exactement. Et que c'était ça qui verrouillait une peur à l'intérieur. Et donc, les arts martiaux m'ont aidé dans ma construction et puis dans le fait d'apprivoiser un peu la peur, mais c'était pas du tout suffisant.
Vous avez cette phrase qui est assez forte et qui est paradoxale, et le courage d'avoir peur. C'est une citation d'un philosophe, Gunther Anders, en exergue de l'un de vos chapitres. Mais malgré tout, vous avez énormément travaillé, Pablo Servigne, sur une peur, la peur de la fin du monde, la peur de la catastrophe climatique. Et cette peur-là, on vous a reproché d'en faire quelque chose comme si vous aviez un discours de prophète de malheur, un prophète d'apocalypse. Là, vous essayez de sortir de cette logique-là pour en faire quelque chose de positif.
Toujours, ouais. Moi, j'ai toujours essayé de faire quelque chose de positif depuis le début.
Quand
moi,
on annonce l'apocalypse, en général,
je dis qu'il y a des problèmes et que si on est, ma croyance, c'est que si on est nombreux à les comprendre, on pourra ensemble faire en sorte de résoudre ou d'atténuer les souffrances. Et voilà. Donc la question de la mort globale, la mort de la société, la mort culturelle. La finitude de notre société, elle fait hyper peur, mais c'est comme la mort, c'est une peur qu'on aura toute la vie, qui est très profonde. Donc ça fait hyper flipper nos suricates.
Oui.
Ils peuvent hurler potentiellement toute la vie.
On appelle ça de l'éco-anxiété, par exemple, chez les
voilà,
jeunes générations.
C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est de... on m'a souvent reproché de trop faire peur. Donc arrête avec tes messages d'alerte, parce que ça inhibe. Mais en fait, la moitié des gens, on a eu la moitié des retours, c'est merci de nous avoir mis dans l'action, nous avoir fait bouger. Donc la peur, c'est ça ce paradoxe, ça inhibe et ça met en action. L'idée, c'est de réduire le potentiel inhibiteur et de augmenter le potentiel d'action. Et de le rouge, quoi.
Ça veut dire que la peur ne doit pas seulement être irrationnelle, la peur peut avoir une vraie rationalité, ce qu'on appelle le catastrophisme éclairé.
Oui, pour moi, oui. Alors après, j'ai découvert qu'il y a des gens, ils ne fonctionnent pas comme ça. En fait, moi, j'ai besoin de savoir qu'il y a des mauvaises nouvelles, des dangers, pour me mettre en mouvement. Et j'ai envie d'aider les gens, et j'ai envie de m'organiser, de trouver des solutions. Si j'avais pas peur, moi, je resterais dans mon lit à lire des bouquins. Ça, c'est comme ça que je fonctionne. Et j'ai découvert, il y avait des gens, c'est l'inverse. Ils ont besoin d'avoir moins peur, d'être dans le vert, d'avoir, pour se mettre en mouvement. En fait, il y a des optimistes actifs, il y a des pessimistes, et j'en suis actif. Le problème, c'est les gens passifs, c'est-à-dire les optimistes passifs, c'est ceux qui disent « ouais, tout va bien ». Et les pessimistes passifs, ceux qui disent « tout est foutu ».
Il n'y a plus rien à faire.
Mais les deux, en fait, c'est un suricate bleu qui est figé, qui n'est pas en mouvement. Elle est là la clé, c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme.
Nathan Obadia, avant d'agir ou de réagir face à une peur, il faut en quelque sorte la digérer. Et ça prend 90 secondes, si on s'y prend bien.
Alors, c'est que si jamais on n'alimente pas une peur par des pensées, les hormones de stress disparaissent du corps en 90 secondes. Ça, c'est les études d'une chercheuse américaine.
Alors, mode d'emploi.
Mode d'emploi, revenir au corps. C'est-à-dire, et ça c'est le plus compliqué, c'est d'arriver, et ça c'est de l'entraînement, à quitter le nuage des pensées. Parce que si jamais on reste uniquement dans les pensées complètement déconnectées du corps, les pensées, elles prolifèrent à l'infini. Alors quand elles sont positives, génial. Mais quand elles sont négatives, là on part dans l'anxiété chronique et là on peut partir dans un trou noir qui nous happe. Donc comment est-ce qu'on fait pour revenir dans le corps? Et c'est ça la clé. C'est même d'ailleurs ça la clé de la détraumatisation, c'est de pouvoir relier le corps et l'esprit.
Non, mais un rapport du GIEC en l'occurrence qui annonce la catastrophe climatique en cours et l'accélération du réchauffement climatique, c'est une pensée rationnelle, scientifique.
Bien sûr, bien sûr. La question c'est cette pensée-là, elle va générer de la peur pour le suricate. Le suricate, il envoie une énergie d'action pour essayer de comprendre comment retrouver du sens, comment agir, etc. Mais sauf que si on reste dans les pensées qui, elles, prolifèrent à l'infini, ça va être terrible pour le corps.
Et si on a peur de la peur?
Et si on a peur de la peur? C'est ça le problème. Hein. Le problème, c'est pas la peur, c'est la peur de la peur.
Mais ce qui est étonnant, Pablo Servigne, c'est qu'en fait, vous appliquez ce processus de la peur à une société entière. Par exemple, si on donne des chiffres, 480 000 salariés français seraient en souffrance psychique au travail, dont 7% en burn-out. Soit 300 000 personnes. Ce ne sont pas seulement les individus qui ont peur, c'est aussi la société française dans son ensemble qui est traumatisée.
Oui, c'est ça. Considérons la société comme un super organisme qui peut être dans le vert, tout va bien, qui peut passer dans le rouge, en mode action, on est tous unis dans un objectif commun, ou passer dans le bleu, être complètement sidéré. C'est par exemple ce qui s'est passé avec le Covid, avec le confinement. Il y a eu une sidération totale, tout le monde est passé dans le bleu, et alors les gens n'avaient plus de lien social, avec la distanciation sociale. Le suricate, il pète un plomb aussi, il a besoin de liens, de sens. C'est ça l'antidote aux peurs. Le suricate s'apaise lorsqu'il est en lien, et lorsqu'il trouve du sens et il a de la joie. Et là, en nous privant de ça, tous les suricates passent dans le bleu, et si on a un peu de chance, dans le rouge. Mais comme on ne pouvait pas bouger, c'était que du bleu. Socialement, c'est que du bleu. Et c'est ce qu'utilisent les pouvoirs pour dominer les gens. C'est-à-dire sidérer les gens avec de la violence, en envoyant une police violente, ou en matraquant de mauvaises nouvelles. Enfin, et surtout, les systèmes de domination individualisent les gens. C'est des attaques massives sur les liens, le capitalisme, le patriarcat, etc. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est tout seul, on est apeuré. C'est très facile.
Il y a une instrumentalisation politique de la peur.
Ah ben ça a toujours existé, les pouvoirs. Ben oui, ça c'est... Et justement, notre pari avec ce livre, c'est pas d'interdire au pouvoir d'utiliser les peurs. Je sais pas comment on peut faire ça. Mais si on éduque tout le monde à bien apprivoiser nos peurs, on gagne en liberté, on n'est plus dépendant de ces autoritarismes, et même mieux, on ne demande plus d'autoritarisme. C'est vraiment l'apprentissage de la liberté, de l'autonomie, et du lien, et retrouver des collectifs puissants.
Et pourtant, le discours dominant en politique, c'est le retour de l'autorité, le besoin d'autorité, c'est à l'inverse de votre cheminement. Il y a de nombreuses réactions d'auditeurs. Anne qui vous dit « Ma fille est éco-anxieuse, comment la rassurer ?» Nathan Obadia.
Comment la rassurer? Bah déjà en lui disant que c'est normal d'être éco-anxieuse, c'est sain.
C'est sain.
Et donc en validant cette peur-là, bah oui, il y a tellement des enjeux énormes pour les générations d'après, c'est normal d'avoir peur. Et donc surtout de ne pas lutter contre ça. Et ensuite, de remettre un peu de sens et de se remettre surtout en lien. Là, il va falloir essayer de se remettre en lien avec des gens qui partagent les mêmes valeurs et qui agissent. Et là, on y va ensemble.
Qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle, vous demande Simon?
À notre petite échelle individuelle, vous voulez dire?
Oui. Oui.
Alors ce livre, il a deux faces. Il y a un côté développement personnel, c'est-à-dire qu'on peut pas faire l'économie d'aller voir nos traumas, d'aller voir, apprendre à respirer, retrouver le contact avec le corps, et c'est ce que j'ai fait grâce à Nathan aussi depuis 3 ans, et ça m'a aidé, ça m'a fait un bien fou.
Prendre des douches froides.
Mais c'est ça marche aussi, mais et c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que dans le bandeau il y a marqué développement collectif. C'est pas que du développement personnel. Et pour retrouver des collectifs sains, il faut des individus voilà bien ancrés, mais c'est une question politique aussi. Donc dans son petit coin, c'est nécessaire, mais ça va pas être suffisant. Il va falloir faire du lien et faire du collectif, et c'est une question politique.
Et une question démocratique, en l'occurrence, on est en pleine période électorale. Est-ce que vous avez le sentiment que ce collectif existe encore, ou est-ce que c'est un vœu pieux?
Non, il existe. Alors, on a plein de collectifs. Il y a un emboîtement d'appartenance, hein, les voisins, la famille, le village, le quartier, mais aussi la région, le pays, etc. Donc, ouais, travaillons ces collectifs. Il y a des attaques, hein, sur sur le corps social, mais il y a une puissance de vie qui est toujours là.
Question de Nicolas, enfin, c'est une citation. La peur est une réaction, le courage est une décision. Citation de Winston Churchill. Qu'en pensez-vous, Nathan Obadia? Ça vous fait sourire?
Oui, le courage, c'est surtout de faire face à sa peur. Donc, c'est-à-dire de pouvoir la regarder en face et de lui dire, et c'est à ça que sert le suricate, hein, la métaphore du suricate, c'est de dire, ok, t'es là pour moi. T'es en train de m'envoyer non seulement un message hyper important, mais aussi de l'énergie pour agir. Et donc, on va œuvrer ensemble, plutôt que de se laisser emporter par la peur, la panique.
Mais il y a une question qui se pose aussi à nous, les médias. Ça faisait l'objet notamment d'un dossier dans le journal La Croix hier sur la façon d'informer sur l'environnement. Il y a un développement qui est montant de la réticence à s'informer, une espèce de fatigue informationnelle, parce que on n'arrête pas de dire record de chaleur battu, inondation, etc., réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on peut en parler, Pablo Servigne, sans paralyser?
Alors ça, c'est la question de toute ma vie. Comment on lance une alerte sans faire peur?
En tout cas, sans empêcher de faire quelque chose.
Ouais, mais mon pari, c'est qu'il faut pas renoncer aux alertes. Enfin, il faut dire les choses, mais travailler plutôt la capacité de recevoir ces alertes et de se mettre en mouvement. Donc c'est vraiment savoir passer dans le rouge. Pour ça, il faut vraiment cultiver le vert. C'est-à-dire les alertes, le changement climatique, tout ça, ça va durer tout le siècle. Ça va même empirer. Donc on va forcément, c'est comme l'idée de la mort, elle est là toute notre vie. Mais si ça devient une obsession, on va mal le vivre. Donc savoir retourner de temps en temps au vert, à la joie, pour enfin se ressourcer en fait, pour retrouver l'énergie du rouge. Et à chaque fois qu'on développe une énergie du rouge pour créer des solutions, aller en manif ou je sais pas pour résoudre des problèmes, il faut récupérer à la hauteur de l'action qu'on a dépensée.
Mais ce que disait Camille Etienne, l'activiste dans ce dossier du journal La Croix, c'était qu'on a une injonction à être toujours positif sur les questions écologiques. Ça c'est un travers, c'est une dérive.
Moi j'y arrive pas avec ça. Moi j'ai besoin de pessimisme pour me mettre en action, et trop d'optimisme, moi je trouve ça louche. Mais c'est ma manière de vivre, et c'est ma manière, que je me suis construit comme ça.
Oui, autour d'un mot qui est l'effondrement quand même, et d'une discipline, la collapsologie.
J'ai eu besoin d'énormément de peur pour me mettre en action.
Il y a une question au standard, celle de Romain qui nous appelle de Savoie. Bonjour.
Bonjour. Oui, j'ai une question pour vos intervenants qui disaient que pour vaincre la peur, il faut revenir au corps, parce que les pensées s'enchaînent à l'infini, et donc en revenant au corps, on peut vaincre sa peur. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand c'est le corps qui est la source de la peur, quand c'est le corps qui est en danger? Comment on supprime la peur?
Merci pour votre question, Nathan Obadia.
Ouais, c'est une super question. Évidemment, les alertes que détecte le suricate peuvent venir du corps, et donc là, les pensées peuvent aussi être une très bonne façon d'apaiser. C'est vraiment des boucles de rétroaction. Il faudrait rentrer dans les détails concrètement plutôt que de faire des généralités, mais en gros, si on remet du sens, si on se remet en lien, peut-être que justement le corps va pouvoir s'apaiser un petit peu, et on peut aussi travailler directement sur le corps. Mais bon, il y a pas de miracle.
Mais vous savez qu'on vous a reproché d'avoir un discours crypto-religieux, qu'en l'occurrence, Pablo Servigne... Oui, c'est un mot, par exemple, quand on vous dit qu'il y a la solitude, le désespoir qui accompagne nécessairement le discours de la fin du monde, en l'occurrence, quand on ne voit pas comment s'en sortir, quand on ne voit pas d'issue, et vous arrivez à vivre avec ce sentiment-là tout le temps.
Moi, personnellement?
Oui.
Non, justement, parce que j'essaye d'être en lien, de mettre du sens. Moi, mon boulot, ça a toujours été de faire du lien et de faire du sens et de donner des outils.
Et d'être alarmiste.
Mais je lance des alertes parce qu'il y a des menaces. Et j'ai besoin de ça. Et les gens aussi ont besoin de savoir. Donc mon boulot, c'est de donner des outils conceptuels aux gens pour qu'ils puissent s'en sortir et trouver des solutions qui viennent d'eux. Je suis pas là pour donner des solutions. D'ailleurs, c'est frustrant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 15 ans que je fais ça, les gens me demandent des solutions et j'essaye d'éviter d'en donner. J'ai envie que les gens les trouvent eux-mêmes. Et ça, ça fait du bien. Enfin, je donne pas
d'alerte. Vous dites même d'ailleurs qu'il faudrait inventer un mot pour... plutôt que parler de problèmes, de résoudre des problèmes, oui, inventer un langage pour décrire la bonne démarche.
Pour les problèmes trop grands, comme par exemple la mort, c'est pas un problème. Les Anglais ont le mot predicament, c'est-à-dire une solution, une situation inextricable. Et il n'y a pas de solution à la mort. Il y a des manières de bien vivre avec. Et l'effondrement ou le climat, c'est là. C'est là pour toute notre vie. Il va falloir apprendre à vivre avec. Mais ça veut dire aussi lutter, ça veut dire se mettre dans le rouge, avoir peur, avoir des peurs ajustées et savoir revenir dans le vert, dans la joie, le lien. Et ça, c'est apprivoiser notre suricate, c'est pour ça.
Pablo Servigne, en dehors des questions environnementales, comment vous analysez les récentes déclarations du Premier ministre Gabriel Attal après les attaques entre jeunes? Certains ont été tués par certains de leurs camarades et lui parle, il a un discours très autoritaire. Il parle de remettre en cause l'excuse de minorité, notamment. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un suricate rouge? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous l'analysez comment?
Moi, je vois ça comme des appels à la peur. Enfin, c'est pour... C'est mettre en avant certaines menaces pour faire peur. Et bon, il y a quelque chose d'électoraliste derrière. Et il y a toute une dynamique en France politicienne là-dessus. Moi, je trouve que, justement, apprivoiser son suricate et c'est essayer de ne pas tomber dans ces pièges-là et retrouver l'essentiel. C'est quoi qui fait du sens pour nos sociétés? Est-ce que c'est mettre tout le monde en prison? Est-ce que c'est retrouver de la violence? Est-ce que c'est retrouver une verticalité, du pouvoir, etc.? Non, pour moi, c'est pas ça. Donc, retrouver du sens, apaiser mon suricate, c'est reconstruire un monde meilleur, ouvrir des horizons, faire du lien. Donc, moi, ça va pas du tout dans le bon sens. Moi, ça fait flipper mon suricate, ce genre de déclaration.
Il a un pouvoir, le suricate. Très sincèrement, quand on regarde l'ensemble de la faune de la savane, ça n'a pas l'impression d'être l'animal le plus redoutable ou le mieux armé pour faire face aux dangers.
Et pourtant, alerte est extrêmement fiable, instinctive, très rapide, et que si on sait l'écouter, ce suricate intérieur, à ce moment-là, on va être au plus proche de ce qui se passe dans l'instant. Et on va pouvoir se guider, non pas par peur, parce que le suricate, il déclenche de la peur, mais son message, c'est ce dont on a vraiment besoin, ce qui est important pour nous. Et donc, typiquement, se réenchanter, ça va être un besoin fondamental. Le fait de pouvoir apprivoiser ces suricates, de comprendre qu'est-ce qu'on veut, réenchanter, inventer un nouveau monde, un nouveau paradigme, et y aller ensemble, ça, c'est le pouvoir qu'il peut nous donner.
Il a le pouvoir de détruire nos vies aussi, donc faut l'apprivoiser, faut le caresser, faut l'aimer.
Oui, ça peut être une sale bête, le suricate. Ah, oui. Ça n'est pas que l'animal mignon que vous avez apporté avec vous sous forme de peluche. Le pouvoir du suricate, apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle. Pablo Servigne, Nathan Obadia, et c'est publié aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été les invités d'Inter ce matin.
Merci à vous.